Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue à tous et à tous au Pavillon Nomade. Aujourd'hui, journée extraordinaire. On est accueillis à la buvette du quartier culturel. Alors oui, pour auditeurs, auditrices, on a l'habitude de se délocaliser, d'où nous tenons Pavillon Nomade. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de faire l'émission en direct depuis la buvette et sa jolie terrasse. D'ailleurs, on est à l'ombre. Alors si vous voulez nous retrouver dans les pavillons qui nous écoutent, vous avez envie de nous retrouver pour venir voir Guigny un petit peu et écouter l'émission en direct, bah, n'hésitez pas à nous retrouver là. Pour les autres, vous pouvez nous retrouver sur le site internet www.pavillonnomade.ch. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, on a plusieurs thèmes proposés. On va aborder le thème de l'amitié à l'hôpital. On va passer ensuite par les rencontres de Marie-Claude. Ensuite, on aura un thème qui fait déjà débat dans nos réflexions. Comment rompre avec le mal-être dans son lieu de vie. On continuera par la minute d'Elvio. Elvio, bonjour d'ailleurs.
Mais bonjour à toutes et tous. Alors, bienvenue.
Vous allez nous parler quoi ?
Aujourd'hui, on va faire un bond dans le passé fantastique, en fait. On sera dans la période médiévale.
On va tous retourner un petit peu en enfance, je suis sûr. Et on continuera avec le thème sur l'armée suisse. Alors, thème proposé par Ruben. Et on terminera avec les chroniques d'Eliane qui aujourd'hui, on a mis un petit peu tout le monde à contribution. Cette chronique va s'intituler, bonjour Eliane, prenez le micro, vous allez nous l'annoncer en direct. Comment va s'intituler votre chronique ?
Alors on a trouvé aujourd'hui un nom tout à fait adéquat qui sera les deux avenirs
Les avenirs d'Eliane. Alors, je ne sais pas pourquoi nous avez placé un 2, mais peut-être que, auditeurs, auditrices, si vous avez la réponse, bah, n'hésitez pas à venir partager avec nous un de ces jeudis ou peut-être même aujourd'hui. À la technique, Julien. Bonjour, Julien. Julien qui nous fait un grand signe de la main que vous ne voyez pas, mais qui s'attelle à ce que vous ayez, auditeurs, auditrices, un son des plus épurés et des plus lisses possibles. Bienvenue à nos participants. Alors, retourne à table, on a quelques habitués, on a Léonie, on a Mariana, on a Myriam, on a Eliane, on a aussi notre habituelle doyenne, on pourrait dire. Alors, je vous laisse vous la présenter, Elio.
Alors, on ne la présente plus. Avec nous, autour de la table, nous avons Suzanne.
Bienvenue, Suzanne. Et on a une nouvelle arrivante autour de notre table qui vient pour la première fois, Alice. Bonjour, Alice.
Bonjour.
Ça fait plaisir de voir qu'on a de nouvelles têtes qui apparaissent semaine après semaine. Donc, je rappelle, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être à l'hôpital pour pouvoir venir partager, échanger et discuter autour de nos thèmes. Alors, en parlant de thèmes, on a Mariana et Myriam qui ont décidé, et Léonie, je pense, les trois compères, on va dire les trois drôles de dames, d'aborder l'amitié à l'hôpital. Mais d'où vous vient cette envie et comment vous êtes venue envie de proposer ce thème, mesdemoiselles. Mariana.
Alors, j'ai voulu parler de ce thème parce que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de l'amitié à l'hôpital. C'est vrai que j'ai déjà eu une hospitalisation avant et on peut rencontrer beaucoup de gens à l'hôpital, des gens qui vont nous faire du bien comme des gens qui vont nous faire moins de bien, mais au final, ça reste des gens qui ont compté dans notre vie. Et c'est vrai que pas beaucoup de gens parlent de l'amitié à l'hôpital. C'est quelque chose qui nous donne de la force parce qu'on voit qu'il y a d'autres gens qui vivent la même chose que nous. Et c'est incroyable.
Ah bah merci déjà pour ce début de thème et de débat. Mais vous parlez de l'amitié à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui est plus spécifique, l'amitié à l'hôpital, que de l'amitié en dehors de l'hôpital ? Parce que finalement, l'amitié, c'est quelque chose qui se vit partout.
Alors, pour moi, je ne dirais pas vraiment parce que quand on est à l'hôpital, on voit vraiment les problèmes des autres. Et en fait, on est dans la vulnérabilité. Donc, on apprend à connaître la personne avec ses défauts, avec ses problèmes. Et je trouve que c'est ça, les plus belles amitiés. Parce que on voit la personne dans ses plus mauvais moments et on l'accepte comme elle est. Et on fait tout pour que ça fonctionne.
Et est-ce qu'une amitié naissante à l'hôpital perdure ? Parce que ça, je me suis toujours posé la question. Parce qu'effectivement, on voit les gens se rencontrer, créer des liens, hein, plus des fois que de l'amitié. Hein. Mais comment faire perdurer ces amitiés ?
Alors, je pense qu'il faudrait déjà garder un lien en dehors. Et il faudrait juste se faire confiance.
Oui, non, on vous écoute.
Juste se faire confiance. Et puis, pas oublier que la personne aussi, elle souffre. Et que si on s'est rencontrés, ce n'est pas pour rien.
Si on s'est rencontrés, ce n'est pas pour rien. Il n'y avait pas un adage qui disait il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de rencontre. Comment ça va, Elvio ?
Oh là là, vous m'en demandez beaucoup, mais je vois l'adage, je le vois.
Il n'y a pas de rencontre. Alors, si quelqu'un a l'information dans les pavillons et qui a envie de venir nous sauver ou autour de la table, allez-y. Je ne sais pas.
Il n'y a pas de rencontre par hasard,
il n'y a que des rendez-vous, nous dit Suzanne. Suzanne, d'ailleurs, vous qui êtes la doyenne, hein, une des doyennes autour de notre table, quand vous entendez l'amitié à l'hôpital, c'est très important. Préserver l'amitié, c'est aussi important. De votre expérience de vie, c'est quoi pour vous l'amitié ?
Je ne connais pas.
Vous ne connaissez pas l'amitié ?
Non.
Vous n'avez jamais eu de...
L'amitié, non.
Ben, alors,
peut-être... J'ai eu une amitié qui date de quelques mois, qui a duré 4 ans, mais qui a été terriblement saccagée. Pas par moi, hein. Et autrement, je ne connais pas l'amitié, non.
Ah bah alors ça, c'est la première fois que j'entends. Mais dans votre vie, vous avez des souvenirs d'enfance avec qui vous aviez des amitiés proches et puis que finalement, vous gardez ça dans le coin de la mémoire et que ça reste quand même un bel événement ou pas?
J'ai perdu tous mes camarades d'école. J'ai perdu toutes mes amitiés vers 17-18 ans. Parce que j'ai quitté la Suisse pour l'Allemagne et là, j'ai personne retrouvé. Et puis, je suis tombée malade et là, j'ai perdu tout.
Et c'est vrai, Elvio ? Ah non, je croyais que vous vouliez rebondir. C'est vrai que vous n'aviez peut-être pas eu la chance à votre époque. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Hein. Quand vous disiez « j'ai perdu toutes mes amitiés parce que j'ai quitté l'Allemagne », ça fait un peu écho à ce qu'on peut vivre aussi quand on part d'un canton à l'autre, comme moi-même. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir retrouver à l'époque à travers Facebook, parce que moi, je suis un ancien. Donc, Facebook m'a permis de retrouver des amitiés. Vous avez déjà essayé peut-être un jour de se dire « tiens, je vais... peut-être me demander comment je reprendrai contact avec quelqu'un de l'Allemagne qui m'était cher et je tape son nom sur Facebook, mais tiens, je retrouve sa tête et je lui envoie un petit message.
Non, parce que j'ai souffert énormément de culpabilité. Alors j'ai souvent pensé, de par mon passé, les personnes que j'ai rencontrées, en fait, de leur demander pardon. Donc certaines étaient décédées. Et j'ai archivé, puis finalement j'ai abandonné. Mais j'ai vécu qu'avec la culpabilité.
Eh ben, merci de Elvio, on vous écoute.
Non, moi, je voulais poser une question à ces jeunes gens. Quel conseil vous donnerez aux arrivants, aux nouveaux arrivants à l'hôpital, en fait, pour tisser des liens, pour rencontrer des gens ? Myriam
Alors, il y a Ruben qui a envie de rebondir. Bonjour Ruben.
Bonjour. Il faut sortir de sa chambre.
Voilà.
Pour commencer.
Ouais.
Parce que moi, quand je suis arrivé ici, je ne sortais pas de ma chambre. Et puis, il faut sortir. Il ne faut pas avoir peur. Et puis, il faut faire les rencontres. Il n'y a que des bonnes personnes. Et puis, c'est le plus important. Même si on n'a pas envie d'être là, c'est de faire les rencontres et de faire le séjour ici qui se passe bien et tout, au lieu de faire un séjour ici en mode j'ai pas envie d'être là, ça me casse les pieds et tout. Il faut le prendre ça bien, il faut faire et puis c'est bien.
Mais voilà. Qu'est-ce qui vous a permis de sortir? Parce que ça, c'est peut-être intéressant pour nos auditeurs et auditrices, parce qu'il y en a peut-être certainement qui nous écoutent et qui disent moi, oui, j'ai aussi de la peine à sortir de ma chambre. Comment vous avez réussi? Qu'est-ce qui vous a stimulé à sortir de votre chambre, aller à la rencontre des autres?
Alors, c'est un autre patient qu'en fait, il est venu dans ma chambre et on a discuté et après... je me suis aussi senti un peu plus à l'aise. Mais au début, c'est vrai que je ne voulais pas, parce que je ne connaissais personne. Et ça me faisait aussi un peu peur, parce que c'est la première fois que je suis ici. Du coup, ça me faisait un peu peur, mais c'est un patient. Et puis, il m'a fait rencontrer aussi les gens. Et on a pu discuter, on a pu... Et maintenant, maintenant je vis bien, quoi.
Et est-ce que le fait de rencontrer d'autres personnes justement qui vivent ou qui ont vécu les mêmes choses que vous, en fait, est-ce que vous trouvez que c'est rassurant? Est-ce que ça vous donne envie justement de partager?
Bah, après, moi, je dirais que l'hôpital et tous ces centres-là, c'est différent des amitiés de dehors, parce que puisque déjà, on a un vécu déjà assez chargé. Du coup, c'est différent. Alors que si je suis à l'extérieur, je ne vais pas avoir les mêmes discussions. Ça va être vraiment différent.
Et c'est enrichissant pour vous de justement pouvoir échanger avec d'autres amis que vous avez rencontrés à l'hôpital?
C'est intéressant. C'est aussi intéressant parce qu'on n'a pas tous le même parcours, comme je l'ai dit. Mmh. Et puis, c'est aussi intéressant de voir les gens, comment ils font pour tenir. Parce que si on vient ici, c'est parce que on ne va pas très bien. Et aussi, pourquoi pas nous donner des conseils aussi? Pourquoi pas nous aussi donner des conseils pour qu'ils aillent mieux?
C'est bien. Belle démarche, en tout cas.
Oui, belle démarche. Oui.
Et j'aimerais juste dire, j'ai trouvé la citation de Paul Éluard.
Ce fameux Paul Éluard.
Voilà, il a dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ».
Ah, voilà. Alors, je vois notre jeunesse autour de la table qui sourit, qui acquiesce. Je vois qu'il y a quand même une amitié forte qui est née entre vous, mesdames. Mais ces amitiés, des fois, elles peuvent nous jouer des tours, non, Mariana?
Oui. Oui, alors, je l'ai vécu quand j'étais hospitalisée au début. C'est vrai que quand on s'attache beaucoup à quelqu'un et que c'est très fort, on peut avoir peur. On peut avoir peur que la personne elle parte, qu'elle nous abandonne. Et puis, pour ma part, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis. Et je l'ai vécu. J'avais rencontré une personne qui m'a abandonnée dans mon ancienne hospitalisation. Et c'est vrai que ça fait peur. Mais après, il faut se dire que cette personne, elle souffrait aussi. Et que c'était peut-être pas son choix de partir. Mais c'est vrai que là, à la forêt, j'ai fait une rencontre incroyable. J'ai rencontré une personne qui m'a beaucoup soutenue et qui m'apporte énormément de joie et de bonheur, et je l'aime beaucoup.
Tant mieux, ça c'est aussi important de reconnaître qu'il y a des rencontres qui peuvent nous faire du bien. Il y a des amitiés des fois aussi qui peuvent se faire, se défaire, des amitiés qui peuvent être éphémères aussi. Mais l'important c'est de pouvoir échanger, se rencontrer, arriver à sortir d'une chambre grâce à l'aide de l'autre. Suzanne.
Moi j'ai perdu l'estime de mes parents. J'ai perdu l'estime de mes frères et sœurs. Ils m'ont tous tourné le dos. Et j'ai perdu l'estime de ma belle famille. Et j'ai perdu... j'ai tout perdu. Et pendant 20 ans, ma famille, ma petite famille que j'ai créée, on a ramé tout seul. Sans personne, sans aide, sans rien. Aucune aide. Voilà.
Alors, on a Léonie qui avait envie de rebondir. Léonie, on vous écoute.
Moi, je voulais rebondir sur juste les amitiés, parce qu'on dit souvent que les amitiés, ça se compte que sur les doigts d'une main. Et c'est vrai. Et franchement, il faut en prendre soin, parce que des amis chers, on en a peu. Et des amis bien, on en a peu aussi, sur des gens sur qui on peut compter. Et j'ai une grosse pensée aujourd'hui à une amie que j'ai perdue il y a 2 semaines, qui est décédée d'un accident de voiture. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, que... qu'on a peu de gens sur qui compter, et que malheureusement tout peut arriver du jour au lendemain.
Alors on a une belle pensée pour ses proches, pour vous, pour tous ceux qui vivent un jour le départ de manière tragique d'un proche. C'est jamais évident, c'est vrai. Hein. On choisit ses copains, mais rarement sa famille, chantait Renaud. Oui, quand on choisit d'ouvrir sa porte à quelqu'un qu'on ne connaît pas, des fois le lien peut être tout aussi fort, voire plus, au-delà de l'amitié. Et quand on les perd, c'est douloureux. Et on doit pas avoir une pensée positif aussi, de ne pas tout le temps penser aux événements tragiques de l'événement, mais de se rappeler des bons moments qu'on a vécu avec Mariana.
Alors moi, comme j'ai proposé ce thème, j'aimerais un petit peu expliquer pourquoi, si vous m'autorisez.
Alors on a encore quelques minutes, alors volontiers.
Alors moi je voulais dire que l'hôpital, ça m'a apporté beaucoup de choses en termes d'amitié, et normalement je pars lundi, et c'est vrai que j'ai pas eu ma famille, elle m'a laissée. J'ai pas non plus d'amis, j'ai jamais eu d'amis. Et à l'hôpital, je trouve qu'on peut faire des très belles rencontres, qu'on se comprend, qu'on se soutient. Et surtout que on se fait rire, en fait. On essaye à chaque fois de donner le sourire à tout le monde et de laisser personne dans son coin. Et c'est ça qui est le plus beau. C'est de voir que même si on souffre, on essaye toujours de faire en sorte que tout le monde rigole, que tout le monde soit bien et de laisser personne de côté.
Ben vous avez tout à fait raison. Je trouve que c'est des très beaux mots de fin pour faire un petit instant musical. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants après la musique de HK qui s'intitule « Danser encore ».
Jamais docile ni vraiment sage, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nous sourire notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance les instruments de leur démence. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh, 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 oh,
danser, enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées, enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.
Le direct.
De retour sur les ondes de Pavillon Nomade, au plein cœur du quartier culturel à Malévaux. On est entouré d'arbres magnifiques et de ce soleil qui nous lèche un petit peu au bout de table. Si vous voulez nous rejoindre, retrouvez-nous à la buvette du quartier culturel ou tous les jeudis de 15h à 16h30. Si vous voulez participer à l'émission, proposer des thèmes, échanger comme on le fait déjà depuis presque une demi-heure. Les rencontres de Marie-Claude. Tous les jeudis, Marie-Claude Cudry va à la rencontre d'une personne qui se raconte autour de Malévaux. Aujourd'hui, Marie-Claude a rendez-vous avec Edith Vasquez. Edith est arrivée à Malévaux en octobre 1972 pour suivre la formation d'infirmière en psychiatrie. C'est un hasard qui l'a amenée à Malévaux, comme elle le confie.
Les rencontres de Marie-Claude.
J'étais en Allemagne et je voulais faire jardinière d'enfants. Et ça devait coûter énormément d'argent pour mes parents. Et je me suis dit, non, il faut que je sois autonome. Et j'ai regardé un peu et il y avait encore la possibilité de s'inscrire à l'école. Alors, j'ai passé des examens, un entretien avec le docteur Rebellé, un entretien psychologique et puis surtout le carnet de notes à l'époque. Et j'étais acceptée, donc j'ai débuté octobre 72 jusqu'en 75.
Et vous aviez quel âge à l'époque ?
J'avais 19 ans. Et mon premier stage que j'ai fait dans les unités, après 3 mois de cours théoriques, m'avait beaucoup impressionnée. Et je ne savais pas si j'allais rester ou pas. Je suis rentrée dans une unité d'admission femme et je suis arrivée à 7h le matin. À cette époque, il y avait les nonnes qui travaillait et une nonne était responsable. Et j'ai été confrontée pour la première fois à la mort. Alors ça m'avait beaucoup marquée. Je me rappelle que la sœur qui était responsable de l'unité m'avait dit, écoutez, maintenant, vous levez les patients et après, on va déjeuner. Et j'étais incapable d'avaler quoi que ce soit. Pour la première fois de ma vie, j'avais vu un mort. Et après, elle me dit, écoutez, vous êtes élève, vous allez devoir affronter la mort, vous venez avec moi. Et je suis allée dans la chambre où la personne était décédée et j'étais mais paralysée. Elle me disait, mais il faut m'aider à me faire la toilette mortuaire. J'ai dit, bon, d'accord. Mais j'étais vraiment paralysée. Après ça, c'est une chose qui m'avait énormément marquée. Elle a dit, bon, maintenant, on réunit tout le personnel. On va manger un gâteau parce qu'elle est morte. Maintenant, elle est dans le ciel et la vie continue. Oh, ah, c'était très, très dur pour moi à cette époque-là. Et c'est des choses qui m'ont marquée, qui, par la suite de ma vie professionnelle, j'ai gardé pour pouvoir améliorer justement les soins et surtout ce que chaque soignant vivait dans les unités. Parce que ça m'avait vraiment marqué. Après ma formation, on m'a mise dans l'unité du Muguet, qui était l'unité première classe. À l'époque, cette première classe, il y avait beaucoup de personnes étrangères. Il y avait des personnes qui étaient dans l'aristocratie, des comtes, des ducs. Et je me suis dit, mais c'est quelque chose qui ne me plaît pas, parce que j'avais un rôle de gouvernante. Lever les patients, que s'ils voulaient bien, leur donner le thé, on me sonnait pour aller changer des fleurs. Enfin, je ne me plaisais pas. Alors, j'en ai parlé à mes supérieurs. J'ai dit, écoutez, je n'ai pas fait infirmière pour faire ce que je fais aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible de changer ? Et ils m'ont entendue et ils m'ont transférée dans l'unité de la personne âgée. L'unité qui, à l'époque, était un lieu de vie, parce qu'il n'y avait pas les EMS. En 75-80, il y avait très, très, très peu d'EMS en Valais. Et là, j'ai fait 7 ans, où vraiment, j'ai eu énormément de plaisir, vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec la personne âgée. Et ça a marqué un peu ma carrière professionnelle. C'est vrai qu'à cette époque, autant la personne âgée que les autres unités, c'était des lieux de vie. Il y avait 400 lits qui est descendu par la suite à 120, 130 lits. Donc, il y a eu toute cette réorganisation de Malévon qui est passée d'un lieu de vie à un lieu de crise. Et surtout, une prise en soins qui était groupale à une prise en soins qui était beaucoup plus individuelle. C'est vraiment quelque chose qui a marqué l'institution. Par la suite, j'ai eu le plaisir de vivre la construction de la psychogériatrie. On a tout réorganisé, le bâtiment du Rocher, pour en faire un bâtiment neuf pour la personne âgée. Parce qu'à l'époque où je travaillais avec la personne âgée, les dortoirs étaient de 10 personnes. C'était compliqué pour l'intimité. Et quand il y a eu la construction, et j'ai assisté à l'inauguration, j'étais vraiment très heureuse de pouvoir voir l'évolution de cette architecture pour la personne âgée qui était toujours un peu le parent pauvre de l'institution.
La suite au prochain épisode, cette rencontre avec Edith Vasquez est proposée par Marie-Claude Cruidry et sera disponible à la fin des épisodes sur le site pavillonnomade.ch. Alors déjà, j'aimerais, si Edith, je sais qu'elle va réécouter et écouter l'émission, j'aimerais déjà la remercier personnellement parce que Edith, sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui autour de cette table. C'est Jimmy. Je pense que vous avez peut-être reconnu la voix ou peut-être que vous avez entendu parler de ce magnifique projet. On espère une fois vous avoir aussi autour en live de cette table hein, pour qu'on puisse aussi échanger peut-être un petit moment ensemble. En tout cas, merci parce que vraiment, sans vous, je ne serais pas là depuis 20 ans à l'hôpital. Et puis, j'ai aussi entendu un petit peu cette interview que vous venez de passer. Vous nous avez parlé de non-responsable, d'expérience qui permet de s'améliorer, de se redéfinir, un lieu de vie qui est devenu un lieu de crise. On est passé du groupal à l'individuel. Et puis, l'intimité difficile à supporter quand on vit à 10 dans un dortoir. Alors, je ne sais pas, autour de la table, comment vous réagissez un petit peu à ces échanges, à cette évolution qu'il y a et de comment vous vivez ça aujourd'hui, Ruben. Alors, tant que Ruben prend un micro.
Ben, moi, je trouve intéressant qu'elle a dit qu'en fait, au début, c'était un endroit de vie et qu'au fil des temps, c'est devenu un endroit, de crise. Et c'est aussi pour ça que la plupart des gens, ils voient un peu mal Malévo. Et c'était assez intéressant qu'elle dise qu'à la base, c'était un truc de vie, genre un endroit où on vit.
J'aimerais juste vous poser la question. Je sais, quand on arrive, il y a une période assez compliquée. Mais maintenant que vous êtes sorti de votre chambre, que vous avez fait des connaissances et tout, est-ce que vous vous sentez plus dans un lieu de crise ou dans un lieu de vie ?
Je me sens plus dans un lieu de vie. Mais c'est vrai qu'au début, on ne connaît pas l'environnement. C'est comme à tout, à n'importe quel endroit où on va. On ne connaît pas l'environnement et du coup, on va entendre plus les gens qui de l'extérieur. Et du coup, ça fait très peur. Mais c'est vrai que maintenant que je suis, c'est vrai que c'est plutôt un endroit de vie. Et c'est vrai qu'on est bien, quoi.
Et dans ce lieu de vie, comment vous vivez cette promiscuité ? Parce qu'on a vu qu'en quelques années, par rapport aux années 70, où il y avait des dortoirs de 10 lits, là, vous avez quand même des unités qui sont encore, malheureusement, déjà mieux adaptées, mais qui doivent être encore rénovées. Le fait de vivre comme ça, à 25, dans un pavillon, où on doit partager 4 salles de bain et 4 WC, des lieux communs, des espaces, comment vous vivez cette proximité ? En tant que jeune,
moi je dirais que c'est un peu comme ça et que c'est en fait il faut vivre un peu ensemble aussi. Que si on avait plus chacun une chambre, un truc comme ça, ça ferait aussi un peu couper les liens. Moi, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est mon autre patient que j'étais avec. Du coup, moi je dirais que c'est bien aussi que il y ait aussi beaucoup de un petit peu, une chambre à deux. Une salle de bain comme ça aussi, ça fait aussi un peu plus de monde dehors pour aller à la salle de bain, des trucs comme ça.
Donc d'une certaine manière, de ne pas passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire de ne pas avoir des dortoirs à 20 et puis pas non plus d'être dans l'individualité d'une chambre tout seul, de trouver ce compromis qui est à l'heure actuelle dans les différents pavillons, est quand même vecteur d'échange et de partage.
C'est ça.
Et j'aimerais poser la question parce que je vois Mariana qui réagit aussi. Mariana, donc pour vous, le fait de justement pouvoir partager une chambre, éventuellement se lier d'amitié avec la personne qui est avec vous en chambre, est-ce que vous trouvez que c'est important dans votre établissement ?
Oui, je trouve que c'est très important, surtout quand on arrive, on est en crise. Et puis après, au fil du temps, on peut apprendre à parler avec la personne. Et puis moi, c'est vrai qu'au début, ça m'a beaucoup aidée d'être à deux dans la chambre. Parce que je suis arrivée, je ne sortais pas de ma chambre. Je dormais toute la journée, je ne mangeais pas. Et c'est cette personne-là qui m'a dit, maintenant, il faut manger. Maintenant, il faut sortir. Et puis du coup, j'ai commencé à sortir et j'ai appris à connaître plein de gens. Et c'est vrai que c'est bien quand même d'être à deux parce que je ne serais jamais sortie de ma chambre.
Merci.
Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes autour de la table qui ont envie de réagir par rapport à cet premier opus que nous propose Marie-Claude Cloudry sur les premiers pas d'Edith Vasquez à l'hôpital de Malévaux. Suzanne.
Oui, bah, j'ai connu ces années 79, 77, mais à Cerie. En fait, hein. À Cerie. Et là, c'était vraiment terrible. Donc, il y avait aussi Anan, il y avait le trousseau de clés et vous rentriez dans le pavillon. Alors, ils appelaient ça la division et clac, ils fermaient à double tour. Et il y avait l'infirmière qui vous suivait pas à pas avec son gros trousseau de clés. Et puis elle vous menait dans les ateliers. Et vous passiez des heures à coudre, à faire des... Moi, j'ai fait beaucoup de macramé, de rotin, enfin tout ça. Et j'ai passé mon temps à faire ces trucs. Et vous aviez des personnes terriblement atteintes et ça venait vraiment incroyable. Et il y avait une fois une jeune personne comme moi qui avait 25 ans et puis qui devait rentrer le lendemain. Et puis le lendemain, moi, j'avais la possibilité à ce moment-là de sortir, c'était donc à Prilly, de prendre le train et d'aller sur Lausanne. Et cette personne est descendue la route avec un mouchoir. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle va faire ? Et impossible de traverser la route et de la retenir pour pas aller à Lausanne à pied. Eh bien, elle s'est jetée en bas pour Messière. Et vous voyez, quand on apprend le lendemain des choses pareilles, ça vous marque à 20 ans. Des choses pareilles, ça vous marque à vie. Et comme il y avait une, elle avait la gangrène, elle était, oh purée, elle m'a dit, tu sais, tu passeras par là. Par exemple, des trucs comme ça.
C'est effectivement, vous avez des moments très difficiles qu'on vit à l'hôpital, au sein de l'hôpital. D'ailleurs, ça me fait permettre de rebondir sur le thème que vous vouliez proposer, Suzanne, qui était finalement aussi, hein, vu qu'on est à chemin de vivre des choses qui sont difficiles à l'hôpital, mais vous nous proposiez aussi d'aborder ce sujet sur finalement comment rompre avec le mal-être dans son lieu de vie. Parce que quand on part avec ces événements-là qu'on vit à l'hôpital, et qu'on retourne dans son domicile, bah des fois on retourne avec des idées, avec des pensées, avec des choses qui nous mènent à la rumination, à penser négativement. Finalement, quand on se retrouve seul à domicile, comment on arrive à rompre avec ce mal-être ?
Eh bien, moi, il s'est trouvé ceci, c'est que j'ai déménagé il y a 3 ans pour avoir un chez moi. Parce qu'il y a 3 ans, jusqu'à il y a 3 ans, je ne me suis jamais sentie chez moi. Et j'ai tout fait. Pour cet appartement, je l'ai choisi avec les critères que je voulais. J'ai tout fait. Je l'ai agencé comme je voulais. Impossible de mettre mon énergie. Et j'ai dit, c'est pas possible. Je comprends pas. Je comprends pas que j'arrive pas à être bien. J'ai fait tout. J'ai pris un chat, vraiment, il y avait rien. Il y avait toutes les commodités. J'avais une voiture. Je pouvais aller où je voulais. Je ne comprenais pas. Et il s'est trouvé que j'ai cherché parce que ça a créé chez moi de fortes angoisses. Et l'angoisse a été... C'était un envahisseur. Et j'en ai parlé finalement à gauche, à droite. Et puis aussi au 143, à la main tendue. Et j'arrivais pas à mettre le doigt. Et finalement, il s'est trouvé que... Il y avait une présence dans cet appartement, dans ma chambre notamment. Parce que je pouvais jamais dormir dans ma chambre en pyjama, donc j'étais toujours habillée. L'hiver, je mettais les bottes. Imaginez le truc. Donc, je comprenais pas un comportement pareil. Et je n'arrivais pas à me sentir à l'aise chez moi.
Et comment vous avez fait alors pour nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent, pour arriver à sortir de ce malaise? Qu'est-ce qui a été les pistes?
Alors, les pistes, c'est une personne du 143 qui m'a aiguillée en me disant « Mon fils avait des énergies dans son appartement et il a demandé à un spécialiste pour faire disparaître ses énergies. Il m'a donné le nom. Je l'ai contacté et cette personne m'a dit « Oh, je suis désolée, mais j'ai tellement pris, mais je voudrais faire un autre spécialiste qui fera la même chose que moi. » Je l'ai contacté, il est venu 2 jours après et maintenant je me sens revivre.
C'est une bonne piste. Hein. Des fois, on a des fois des éléments comme ça naturels, des cours d'eau qui passent sous les bâtiments qui ont été construits. On a des failles, on a des ondes telluriques. Et des fois, on a des spécialistes qui peuvent venir. Des fois, alors pour ceux qui, une fois de plus, y croient, hein, on n'est pas là pour faire l'apologie du désenvoûtement ou de nettoyer, purifier l'air. Mais c'est vrai, ça existe. On sait qu'aujourd'hui, on peut peut-être interrompre certaines ondes telluriques. En changeant des fois même la disposition du lit, en changeant des fois même l'environnement, les couleurs, ça peut agir sur un environnement qui nous fait se sentir mal. Elvio ?
Oui, il y a le feng shui aussi, hein, donc où on peut disposer en fait différemment en fait les meubles, les choses. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. C'est pas forcément à connotation hyper méga spirituelle, mais par contre ça aide à se sentir mieux chez soi, à apprendre. Et puis j'aimerais dire aussi suivre son instinct, suivre aussi essayer de toute façon du mal, ça peut pas faire. Et puis parfois on a des bonnes surprises. Donc Ruben, vous voulez réagir?
Des fois on a des bonnes ondes, des fois c'est des bons esprits qui sont là et qui veulent pas notre mal. Hein. Des fois c'est ça. Hein. Mmh. Mais on croit qu'ils veulent nous mal parce que on a toujours entendu ça. Mais ça veut pas dire qu'on a entendu que ça fait du mal, que les tout. Des fois, c'est juste qu'ils sont là parce qu'ils sont là. Et il faut vivre avec. Ils ne font pas peur.
Ah non, non. Moi, je ne suis pas d'accord de vivre avec des angoisses.
Alors non, alors ça vous avez raison. Pour nos auditeurs et auditrices et puis les personnes qui sont là autour de la table, quand il y a quelque chose qui vous sentez qui ne vous convient pas, il faut essayer de trouver des solutions. Donc on a entendu une des solutions, ça pouvait être d'appeler le 143 la main tendue. Ça peut aussi de partager. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Jean-Marc Richard à son émission qui s'intitule
La
ligne de cœur. Ça peut être aussi une démarche à faire. Ça peut être simplement dit Elvio, de changer l'environnement de son appartement. Ça peut être de refaire la déco. Ça peut être tout simplement de déménager, parce que des fois, on a des souvenirs où il y a des fois des lieux qui nous rappellent des choses. Simplement, en s'éloignant, ça permet de trouver des solutions. Alors, je ne sais pas si Mariana ou Myriam, vous avez, vous, peut-être des petits tips qui permettent comme ça, quand on est dans son lieu de vie, dans son appartement, où on ne se sent pas bien, on se sent mal. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en plus de ce qu'on a déjà proposé? Je ne sais pas si vous avez des petits tips à proposer à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui se retrouvent des fois confrontés à la même situation. Alors, si vous n'êtes jamais arrivé, ce n'est pas grave. Eliane, je ne sais pas si vous avez peut-être des petits tips à proposer avec votre expérience de vie.
Je dirais qu'il y a effectivement d'autres habitants dans mon chalet que moi. Ça, c'est clair. Donc, j'avais fait venir un monsieur pour nettoyer le bas. Après, il est mort. Bon, pas de chance, je n'ai pas retrouvé quelqu'un d'autre pour me faire l'étage. Parce que chez moi, à l'étage, il y a des hussards qui sont là, mais qui leurs âmes ne partent pas.
Alors, je ne sais pas ce que c'est un hussard. Alors, peut-être pour nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est un hussard ?
On a Elvio qui va regarder, parce que exactement ce que c'est, je peux pas le dire.
Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte avec la dédicace, le temps que Elvio nous trouve, avec une chanson qui est proposée par Myriam et Ruben, et qui s'intitule « Paris » de Nuno Lagrint. Vous avez envie d'en faire une dédicace, mais pour qui ?
Pour Désiré Doué.
Alors, une dédicace pour Désiré Doué, et de votre côté, non, c'est pour toutes les gens qui aiment cette musique. Alors, vous dédicacez à Ruben. Alors, allez-y, prenez le micro, Myriam.
Je voulais dédicacer à Ruben parce que c'est lui qui me l'a mis dans la tête. Du coup, maintenant, je fais que de l'écouter à cause de lui.
Ah bah alors, on va essayer de pas trop la garder dans notre tête non plus. Alors, on se retrouve dans quelques instants sur les ondes de Pavillon Nomade.
Amitié gâchée par rapport aux flics. J'achète un pétard, je le mets sous mon frac, en espérant pas croiser les flics. Il me faut du fric et une grosse villa. La copilote rencontre mes mappés, ça. Parle pas avec eux, ils sont trop pressés. On est trop pressés. On va de filoche, puis on va procéder. Les fans pensent que je suis possédé. J'étais dans le bloc, maintenant j'en décédé. Paris c'est magique, j'aime trop ma ville. Ça bouge de tous les côtés. Grosse bécane neuve sur le périph. La bavette à les frotter. Je me balade dans la crête. Ta copine demande une photo, je m'en rappelle, elle faisait des manières. La rue c'est noir, c'est soit l'oseille ou la mort. C'est soit l'oseille ou la mort. Je suis parisien comme Mbappé. Viens par ici, y'a ce qu'il faut pour se droguer. Si t'es paresseux, tu restes chez toi. Il me faut un petit peu d'éther tous les soirs. Je fume la frappe de Rotter dans le square. Faut venir me dead pour que je perde espoir. Je suis dev, je l'ai démonté dans la baie. J'ai perdu la boule, elle a enlevé son peignoir. La daronne ne voulait pas que je traîne le soir. J'ai trop fait d'erreurs, je peux pas rater ma chance. Le pilon me tabasse le crâne tous les soirs. Où sont mes ennemis? Ramenez-les, moi je vais les boire. Il me faut du fric et une grosse villa. La copilote rencontre mes mappés, ça. Parle pas avec eux, ils sont trop pressés. On est trop pressés. On va de filoche, puis on va procéder. Les fans pensent que je suis possédé. J'étais dans le bloc, maintenant je vais en décéder. Paris c'est magique, j'aime trop ma ville. Ça bouge de tous les côtés. Grosse bécane neuvée sur le périph. La bavette elle est frottée. Je me balade dans la crête. Ta copine demande une photo, je m'en rappelle, elle faisait des manières. La rue c'est noir, c'est soit l'oseille ou la mort. C'est soit l'oseille ou la mort. Paris c'est magique, j'aime trop ma ville. Ça bouge de tous les côtés. Grosse bécane neuvée sur le périph. La bavette elle est frottée. Je me balade dans la crête. Ta copine demande une photo, je m'en rappelle, elle faisait des manières. La rue c'est noir, c'est soit l'oseille ou la mort. C'est soit l'oseille ou la mort.
La minute d'Elvio.
Alors, je vais répondre à la question qui est dans mon thème aujourd'hui, donc dans ma minute. Les hussards, c'était la cavalerie légère à l'époque ancienne, dans les armées en fait.
Merci infiniment.
Je t'en prie. Alors aujourd'hui, nous sommes au cœur des Alpes valaisannes, là où les vignes flirtent avec les pentes abruptes et les marmottes jugent en silence les randonneurs en sueur. Une chose incroyable s'est produite, un phénomène mystérieux, puissant, peut-être même un peu loufoque, l'éveil de l'Abbatia. L'Abbatia, quartier paisible de Martigny, connu pour son château, ses vues imprenables et ses montées qui font pleurer les mollets, on y vit tranquille. Du moins jusqu'au fameux 26 avril 2025 à 6h42 du matin. Moment précis où tout a changé. Une lumière étrange est apparue derrière le château, un mélange entre une aurore boréale, un projecteur de discothèque et une vieille ampoule qui clignote sans raison. À ce moment-là, l'éveil s'est produit. les gens ont commencé à parler avec l'accent valaisan, même s'ils venaient de Lausanne. Un troupeau de chèvres s'est mis à danser en cercle sur un air de cornemuse. Le panneau « Bienvenue à la Batia » a changé tout seul en « Prépare-toi à affronter ton destin ». Puis un vortex nous projetant dans un passé fantasmagorique s'est ouvert, nous emmenant dans un lieu empli de ménestrels, de trolls, d'elfes, de nains, de chevaliers, de guerrières vikings et autres amazones. Un site nous proposant divers échoppes où nous avons pu nous sustenter de diverses boissons et de mets venant d'une époque lointaine. Avec la possibilité aussi de se vêtir, de s'armer et de se munir de pléthore d'artefacts afin de pouvoir commencer notre quête et de sauver notre monde en péril face aux forces obscures. Depuis ce jour, la Batia n'est plus du tout la même. L'air y est plus électrisant, les saucisses grillent plus vite et même les escargots vont un peu plus vite. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour, l'éveil reviendra. En attendant, vive la Batia et que l'hydromel et l'hypocrase soient avec vous. N'oublions pas de préciser que cet événement magique a eu lieu grâce à la guilde de Sombre Sang. Elle est bien plus qu'une simple communauté, c'est une fraternité d'âmes intrépides, unies par leur passion commune pour les récits épiques et les quêtes audacieuses. Leurs membres vaillants et déterminés sont les gardiens des traditions ancestrales et les architectes des légendes à venir. Dans leur campement, que chaque tente abrite une histoire, chaque feu de camp brûle avec l'écho des exploits passés et des aventures à venir. Ils sont les gardiens de l'esprit Île des Liens, prêts à défendre leurs valeurs de courage, d'honneur et de camaraderie, qui font d'eux une force à part dans ces terres enchantées. Rejoignez-les au campement de la guilde de Sombre Sang, où les portes de l'aventure sont toujours grandes ouvertes et où chaque pas vous approche un peu plus des confins mystérieux d'Ilangrad. Venez découvrir un univers fascinant où les légendes prennent vie et où les rêves deviennent réalité. Découvrez leurs prestations uniques allant de l'archerie à l'entraînement au combat, en passant par l'initiation au lancer de haches et à la jonglerie de soie et de feu. Plongez-vous dans les contes et légendes qui peuplent nos nuits étoilées et régaliez-vous de leur cuisine savoureuse lors de ripailles mémorables. Et qui sait, peut-être ferez-vous partie de ceux qui, sous la lueur des étoiles, dans la nuit profonde, entendent un chant des plus entraînants, sombre sang qu'il coule abondamment. Le prochain événement qu'ils organisent, et je vous invite à y participer, c'est le 12 au 14 septembre 2025, les fêtes médiévales de Saillon. Un moment magique et merveilleux à vivre.
Quelle magnifique minute d'Elvio. Vous m'avez donné la chair de poule. Vous m'avez renvoyé à mon enfance où je regardais ces dessins animés ou ces films qui relassaient des combats de châteaux, de gens en armure. Et puis, vous m'avez renvoyé aussi
au
Seigneur des Anneaux. Et aussi, je crois qu'à Aigle, ils font aussi...
C'est à Corbeil.
À Corbeil,
voilà, dans les hauteurs. C'est festival celtique, exactement. Exactement, chaque deux ans, ça s'appelle Danse avec le loup, aussi, merveilleux.
Merveilleux, alors je ne sais pas si vous avez déjà participé autour de la table à des festivités médiévales. Ruben.
Moi j'avais été il y a quelques années à celle de la Batia, et c'était cool, genre on pouvait vraiment voir, je me suis senti comme un chevalier. J'étais petit, et je me disais que c'était mon château, et je vais le protéger.
Magnifique. Est-ce que ça vous a donné envie de faire partie de ces communautés? Parce que c'est vraiment une communauté. Il y a des gens qui vivent avec les modes de vie et pendant plusieurs jours, ils ont exactement les mêmes costumes, les mêmes habits, ils mangent la même nourriture, ils font aussi leurs armes, ils font aussi leur art. Hein.
Oui, alors tout à fait. Puis cette année, nous sommes allés avec ma fille qui se déguise généralement en elfe. avec Damien. Damien qui était stagiaire ici, qui est à la
HES. Salue.
Oui, qu'on salue. Salut Damien. Et moi, avec mon fameux... J'ai fait faire mon costume de chevalier, donc, à Tolède, en Espagne.
Alors, pour nos auditeurs, auditrices, ils ne voient pas la photo. Je peux vous adhérer, en tout cas, vous approuver le costume magnifique que Elvio portait ce jour-là. Une toge noire.
Alors, je sais pas,
brodée dorée. Est-ce que ça a un nom particulier?
Alors, oui, alors en fait, non, c'est l'apparat de sortie des princes, en fait.
L'apparat de sortie des princes.
Exactement. Avec, et j'ai fait faire aussi une épée qui a été forgée. Donc, on ne la voit pas très bien là. Mais
oui, parce que là, c'est des activités. Vous parliez de votre fille. Oui. Je l'avais fait il y a quelques années avec les enfants. Ils peuvent aussi apprendre
le tir à l'arc.
Il y a plein d'activités pour les enfants.
Lancer de la hache. Il y a plein d'activités pour les enfants. Il y a du grimage et tout. Donc, et il y a de quoi aussi se munir, comme je le disais, de costumes vraiment faits à la main, en cuir, en peau. Donc, où vous trouvez vraiment des artisans qui reproduisent en fait ce qui se faisait à l'époque médiévale et celtique.
Alors, si vous êtes intéressé, vous allez sur Internet et vous tapez
sambresang.com.
Et là, vous avez toutes les informations du prochain festival qui aura lieu en septembre.
Exactement, plus d'autres activités qu'ils proposent en annexe.
Eh ben, merci Elvio pour cette belle rubrique. On se réjouit de la prochaine. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale après cette chanson d'Eddie Murphy. Et oui, les acteurs font aussi de la musique. Et en off, Elvio me disait, mais est-ce que tu connais ? Non, c'est une chanson reggae, si j'ai bien compris.
Oui, tout à fait. Red Light est en featuring avec Snoop Dogg.
Oui, ça doit être du bon. On se retrouve dans quelques instants.
Direct.
De retour sur les ondes de Pavillon Nomade après cet instrumental de Red Light Eddie Murphy. Alors, on s'attendait à voir le rire d'Eddie Murphy ou la prose de Snoop Dogg. On a, je crois, eu une version instrumentale. Voilà. Si vous avez envie d'aller découvrir la voix d'Eddie Murphy, alors pas la voix du cinéma parce qu'elle ne sera pas en français, mais en anglais, ça s'appelle Red Light Eddie Murphy et
featuring
Snoop Dogg. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de la repasser d'ici quelques quelques mois et on en rigolera à ce moment-là. Alors Ruben, vous avez envie de parler de l'armée suisse, un thème qui est d'actualité au vu de la géopolitique. Hein. L'armée suisse est une armée de milices appuyée par des militaires professionnels. Elle a pour mission d'assurer la défense du territoire suisse, la sauvegarde des conditions d'existence de la Suisse et de contribuer à la promotion de la paix à l'étranger. Sa création est en 1848 et en 2022, il y avait 49 715 réservistes. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ayez envie de nous proposer ce thème, Ruben ?
Bah, en fait, ça, c'est tout simple. C'est parce qu'en fait, moi, à la base, je suis portugais. Et je suis venu ici en Suisse à l'âge de mes 3 ans, 4 ans. Et en fait, durant ces années, je voulais toujours faire partie de l'armée. Parce que l'armée, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Toujours, j'ai regardé des documentaires de l'armée, de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et tout. Et du coup, puisque j'ai bientôt 18 ans, et que j'ai fait l'anesthésie suisse, j'ai reçu des convocations pour le recrutement et tout. Et en fait, moi, j'aimerais bien faire l'armée grenadier force spéciale. Et du coup, c'est un terme aussi à prendre ça au sérieux, parce que maintenant, c'est vrai que la Suisse, on est très impacté aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est neutre, qu'on n'est pas impacté dans le reste du monde, parce que ça bouge. Et il faut aussi que les Suisses qui nous suivent et qui écoutent cette radio, il faut aussi qu'ils se disent que ça ne veut pas dire qu'on est neutre, qu'on est protégé de tout, qu'on est quand même un petit pays et qu'on peut être assez vite attaqué.
Et puis c'est au-delà de l'élan patriotique, parce que vous dites que vous êtes portugais, naturalisé suisse, vous faites dans la conviction de vouloir apporter votre soutien pour pouvoir protéger le pays qui vous accueille, si j'ai bien compris.
C'est ça, j'ai envie de... C'est comme si la Suisse m'avait apporté quelque chose. J'ai envie de rendre ce qu'elle m'a apporté. Et moi, pour moi, c'est de servir mon pays. Et je suis content, parce que aussi une des raisons que aussi pourquoi je voulais ce sujet, c'est aussi que maintenant, il y a plus de jeunes qui ne veulent pas faire l'armée. C'est aussi ça aussi. Il y a plus de jeunes qui ne veulent pas faire l'armée, alors qu'il faut. C'est une espérance de vie très bien aussi. Il y a plus de gens qui regrettent de ne pas avoir fait l'armée que de la faire.
Mais pourquoi vous pensez qu'ils regrettent d'ailleurs ? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des jeunes avec qui vous parlez qui disent « je regrette de ne pas l'avoir fait » Pour quelles raisons ils pourraient regretter ?
En fait, c'est juste que l'armée, c'est tellement une expérience de vie. C'est aussi où tu te fais des potes. C'est comme un peu à l'hôpital, en fait, on va se dire. T'es avec tout le monde et... tu sais que vous allez le lendemain, vous allez tous vous jeter dans la boue, des trucs comme ça, et vous allez tous souffrir ensemble en fait. Et c'est une expérience que moi j'ai pas encore vécue, j'ai pas encore eu de la chance, mais j'ai envie de la vivre. C'est pour ça que.
Donc d'aller chercher de la camaraderie.
Ouais.
Et aussi.
Aussi de la force.
Du soutien.
La force, et puis il y a surtout aussi le fait de marcher tous ensemble, de se soutenir dans l'adversité. J'imagine justement, et puis je vois en tout cas à l'hôpital, je pense qu'il y a un échantillon de ce qu'on peut retrouver à l'armée, moi ayant fait l'armée, parce qu'il y a des moments qui peuvent être très difficiles, où on dort en bivouac par 2 mètres de neige, et puis là on doit se soutenir parce que le moral il n'est pas toujours au beau fixe, et de savoir que les camarades sont derrière, c'est ça en fait que vous cherchez aussi.
C'est ça, c'est de savoir que je peux compter sur des camarades et que... Et après aussi, c'est aussi pas... J'aime aussi beaucoup l'adrénaline aussi. C'est aussi un moment où tu sais que... Voilà, il faut y aller. Et aussi mentalement et physiquement, c'est dur aussi. Il faut être prêt. Et c'est pas rien de s'engager à l'armée.
Ah non, ça reste quand même pas pour juste le plaisir. Hein. Moi, je n'ai pas fait l'armée, moi j'étais objecteur de conscience. Hein. L'objecteur de conscience, c'est toutes les personnes qui n'ont pas envie d'apprendre à tuer le prochain. D'ailleurs, ça m'a coûté très cher, hein. C'est 3% du salaire annuel. Alors heureusement, à l'époque, je ne travaillais pas énormément, mais n'empêche que ça fait vite son coût. Donc il y a toujours des alternatives hein, pour retrouver ce travail, parce qu'on parle de solidarité, on parle de soutien, mais j'ai des amis qui ont fait le service service civil et qui ont retrouvé aussi les mêmes bases qu'on peut rechercher, ce travail en groupe, ce soutien d'être là pour les autres, parce que le service civil, c'est aussi apporter de l'aide en tant que quand il y a des soucis, des catastrophes. Et c'est une autre manière aussi de trouver la même chose. Mais aller faire l'armée, qu'est-ce que ça va vous apporter à vous? Qu'est-ce que vous attendez de l'armée? Au-delà de la camaraderie, du soutien, en tant que jeune, là, en devenir, de jeune adulte que vous êtes, qu'est-ce que ça va vous apporter à vous?
Ça va m'apporter de la force physique, déjà, et de la force mentalement aussi. Et pour moi, l'important, c'est vraiment la force mentale qui va faire. Et aussi de l'expérience, quoi. Moi, je cherche aussi à découvrir et... Voilà, et pourquoi pas, si ça me plaît, de grader là-bas.
Ouais. Alors j'imagine qu'il y a des jeunes auditeurs qui nous écoutent peut-être, ou qui nous réécouteront. S'ils ont envie d'aller à l'armée, ça se passe comment? Parce que j'imagine qu'il y a tout un processus. Hein. On ne sait pas, j'ai envie de faire l'armée, puis je me présente comme ça. C'est quoi les démarches et qu'est-ce qu'il faut faire pour être apte ou habilité à faire l'armée?
Alors moi, j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres. C'était une journée d'information. Moi, puisque je viens de Sion, c'était à Grosne. Et ils nous expliquent, il y a l'armée, ils nous expliquent un peu comment ça va se passer. Alors pour les filles, parce que c'est vrai que maintenant, les filles, elles peuvent faire aussi l'armée.
C'est une bonne chose d'ailleurs.
C'est une bonne chose. Du coup, alors elles vont pas avoir la lettre, mais il faut les appeler. Il faut appeler l'armée. Et puis elles vont recevoir la lettre. Elles pourront venir à la journée d'information avec nous. Il y avait aussi beaucoup de filles. Et après, c'est les filles qui décident si elles veulent faire. Après ça, la journée d'information, on va noter sur une feuille les jours qu'on veut, pour le recrutement. Et à mes 18 ans, je vais avoir les épreuves physiques qui sont, je dirais...
Alors Ruben, je vous conseille quelque chose. Parce que vous avez fixé la barre haute, grenadier spécialiste. Ouais. Par contre, je vous conseille de vous entraîner assidûment avant le recrutement, parce qu'il faut avoir atteint un quota de points pour pouvoir intégrer, justement.
Ouais, je voulais en venir à ça. Il faut avoir des points, et les points, ça se gagne au truc physique. Et du coup, il faut avoir 8 ans de points, c'est beaucoup. Mais...
Donc j'imagine de l'endurance, de la force en poids direct, le combat peut-être aussi, j'imagine.
Alors j'ai eu toutes les informations et tous les trucs physiques qu'il y aura. Il y aura lancer de balles lourdes sur une chaise. Il y aura de l'équilibre, du gainage. Il y aura aussi de la course. Et puis... saut en longueur aussi. Et puis après, c'est avec ces points-là, ils vont vraiment te dire où tu vas. Mais tu as 3 choix. Tu peux choisir.
Ok, donc il faut être aguerri, préparé. Mais vous avez dit qu'il y avait beaucoup de filles qui se présentaient à l'armée. On a 2 jeunes à table, là, 2 jeunes femmes. Est-ce que si on vous obligeait à faire l'armée, est-ce que vous le feriez ou pas? Parce qu'à l'heure actuelle, ça reste
du volontariat.
Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a, selon vous, parce que moi, je peux difficilement me mettre à la place d'une dame, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de filles qui vont et qui s'inscrivent apparemment à l'armée, selon vous? Alors, on va peut-être... je ne sais pas, selon vous, qu'est-ce qu'il y aurait comme hypothèse? Ou est-ce que vous verriez vous inscrire à l'armée, aller faire l'armée?
Alors non, moi, si c'est pour m'inscrire, je pense que... Je ne m'inscrirai pas parce que, je sais pas, j'ai un peu peur. Mais après, si je suis obligée, je le ferai.
Ok, si on dit un jour, si le monde évolue comme il évolue, si on dit maintenant l'armée est obligatoire pour les femmes, comme elle l'est dans certains pays, en Israël, je crois, il me semble, c'est obligatoire. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas tout. Mais en tout cas, vous, si on vous la proposait, si on vous l'obligeait, vous n'auriez pas contre?
Non.
Ok, Myriam.
Moi, si je devais la faire, je j'irais. Ce serait pas de mon plein gré, en tout cas, parce que je stresse beaucoup. J'arrive pas à m'intégrer dans les choses où je suis pas très très à l'aise. Et je pense que si c'était obligé, je le ferais. Mais de moi-même, non.
sachant qu'il y a beaucoup de secteurs différents. Il y a les transmissions, il y a le génie civil, il y a aussi le médical. Donc, vous pouvez vous engager comme soldat sanitaire, où là, vous allez justement aider les troupes, soigner les troupes et tout ça. Donc, vous pouvez choisir plusieurs orientations sans viser tout de suite l'infanterie. L'infanterie, c'est un peu réservé à l'élite et puis à ceux qui font beaucoup de points lors de la journée sportive. Mais à côté de ça, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le terrain et apprendre à tuer toutes les personnes autour de vous.
Non, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça doit rester un choix. Pour moi, je pense que ça doit rester un choix personnel. Oui. Si on veut faire l'armée, on la fait. Si on ne veut pas la faire, on ne la fait pas. Je ne serai pas pour une obligation de l'armée. Mmh. Je pense que c'est l'obligation. On a rarement de bon dans notre société. Par contre, pour ceux qui veulent la faire, comme Ruben, ou qui seraient prêts à le faire si elles étaient obligées, mesdames, n'oubliez pas que ça demande de la réflexion, ça demande de se renseigner, et ça demande aussi de se préparer pour les examens physiques. Et d'ailleurs, c'est bientôt les examens de fin d'année. Alors, je pense à tous les papas et les mamans qui soutiennent leurs enfants. On arrive gentiment aux examens cantonaux. Je crois que c'est début fin mai, début juin. Donc, on se prépare aussi d'un point de vue. Parce que à l'armée, aujourd'hui, ça demande aussi d'avoir des capacités. On ne sait plus comme à l'époque où il fallait être juste prêt à symboliquement être de la chair à canon. Non, aujourd'hui, ça demande aussi d'avoir des compétences cognitives, d'être suffisamment aguerri.
Oui, tout à fait. Il y a de moins culturel. En moins de fantassins, de terrain, on va dire.
Exactement. Hein. C'est de plus en plus technique aussi.
Technique, exactement.
Mais bon, on aura l'occasion peut-être de parler une fois de l'évolution de l'armée et de son évolution technique, tactique. En tout cas, merci Ruben de nous avoir proposé d'échanger et peut-être d'avoir suscité des vocations. Eliane, les avenirs d'Eliane, notre rubrique qui, pour l'instant, vient de semaine en semaine, où on verra comment elle évolue au gré des mois. Eliane, on vous écoute.
Alors voilà, dans le cadre des animaux soigneurs, la semaine dernière, c'était le chat. Je vais par ordre de grandeur, puisque aujourd'hui, on va parler du chien. Le chien est un compagnon de vie, mais il est également utilisé pour aider des personnes en situation d'handicap physique ou mental. Dans les hôpitaux, certains hôpitaux psychiatriques, dont Cerie, à Lausanne, il y a des chiens qui viennent trouver les patients. Ils passent 40-50 minutes avec le patient et tout cela pour l'apaiser. Alors les chiots, ils sont manipulés par des professionnels qui les sélectionnent tout bébé. Et ils arrivent à définir le caractère de l'animal qui sera orienté soit comme chien de troupeau, chien d'assistance, chien d'avalanche ou chien policier ou chien de troupeau. Personnellement, j'ai pu assister à une naissance et à 3 jours, les professionnels, ils arrivaient déjà à définir le caractère du chien. Pas dire que tous les chiens vont être pris, parce que le choix des parents est primordial et la lignée, donc père et mère, est très importante. Car un animal formé, par exemple, pour quelqu'un qui est aveugle, vaudra plusieurs milliers de francs, entre 20 et 30 000 francs. Le chien choisi vivra en famille d'accueil pendant les 6 premiers mois de sa vie, où il devra apprendre les ordres de base, par le jeu et la récompense. Ce sont des bénévoles qui prennent soin de ces chiots, mais bien entendu, ils doivent remplir certaines conditions. En général, il faut toujours qu'il y ait un enfant à la maison pour que le chien s'habitue à la présence d'enfants. Et ensuite, c'est énormément de travail pour ces bénévoles parce qu'il faut présenter aux chiens les lieux publics, les sons de la gare, du restaurant, enfin de toutes les situations inimaginables où le chien peut être confronté. Je pense surtout aux chiens pour les aveugles. Hein. L'assistance, non pas l'assistance, non pas l'intelligence artificielle, mais l'assurance invalidité, excusez-moi, peut financer la formation d'un chien d'assistance. Ils doivent être certifiés par un organisme pour pouvoir travailler en public. Donc ça veut dire que voilà, le chien il doit savoir les ordres et le patient ou le propriétaire, il doit aussi suivre des cours. C'est quelque chose qui est très pointu. Pour les aides à la personne, on va choisir le Labrador, en général, et le Golden, parce que c'est des chiens qui sont posés, calmes, et pas trop agités comme le Malinois, qui est plutôt un chien de travail, qui travaille dans la police ou le berger allemand. C'est des missions de protection plus physiques. C'est pas qu'il n'irait pas, mais il y aurait trop d'énergie chez le Mali et chez le berger allemand. Voilà.
Merci beaucoup, Eliane.
Merci, Eliane, pour cette rubrique. On aura l'occasion de vous retrouver ces prochaines semaines. On arrive gentiment à la fin de notre émission. Je remercie tous les participants et participantes. Je remercie à la technique Julien qui nous a permis aujourd'hui d'être à l'extérieur et de pouvoir aussi faire profiter aux gens de cette belle émission. Je remercie Elvio.
Je vous remercie également.
Pour ces magnifiques rubriques. Et Elvio que vous retrouverez la semaine prochaine aux commandes de l'émission.
Exactement.
Et nous, on se retrouvera certainement le 22 parce que le 15, ce sera Marie-Claude Cudry qui animera. Parce que le 15,
nous avons la fête de. Écoutez, la Sainte Dipna, merci beaucoup.
Oui, il y aura pas mal de choses organisées.
Oui.
Vous en parlerez certainement la semaine prochaine.
Je vous ferai un topo de tout ce qui s'organise en fait courant mai.
Et nous, si tout se passe bien, on se retrouvera le 22 mai, jeudi 22 mai, avec une émission placée sur le fou rire. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Bonne fin de journée à tous.
Au revoir.
Et on se quitte avec la musique de Willie Ranso qui s'appelle Déclaration.
Me gustaría ser lo que mañana estaré en la misma situación. Simplemente dar lo que está en mi corazón sin saberlo de por qué. Sin embargo, ver lo que nuevo suele andar con mis sentimientos me parece bien, lo que siempre pude ser en mis sueños más profundos. Algún día se neva, algún día siempre está el nacimiento de mi ser, lo que pude descubrir nunca más olvidaré. Algún día se neva, algún día siempre está el nacimiento de mi ser, lo que pude descubrir nunca más olvidaré. Sí, otra cosa que se olvida al que se olvida al tener. Me gustaría ser lo que mañana estaré en la misma situación. Simplemente dar lo que está en mi corazón sin saberlo de por qué. Sin embargo, ver lo que nuevo suele andar con mis sentimientos me parece bien. Lo que siempre pude ser
en mis sueños más profundos. Algún día se neva, algún día siempre está el nacimiento de mi ser, lo que pude descubrir nunca más olvidaré. Algún día se neva, algún día siempre está el nacimiento de mi ser, lo que pude descubrir nunca más olvidaré. Sí, otra cosa que se olvida al tener, al tener. Sí, otra cosa que se olvida al tener, al
le direct.